L'affaire Roson a connu un nouveau rebondissement aujourd'hui. Hier, on apprenait que des présumées victimes étaient rencontrées par le DPCP qui disait « j'en ai pas assez pour prouver, hors de tout doute raisonnable qu'il l'a fait ». Aujourd'hui, on apprend qu'il y a quand même des accusations de portée. Et celle qui a révélé et suivi ce dossier-là depuis le début, c'est Monique Néron, journaliste au 98.5, notre station sœur à Montréal. Bonjour, bonjour Monique.
Bonjour Myriam, bonjour Luc.
Oui, bonjour.
Quelles sont les accusations portées et pour quel cas?
On parle d'un cas, donc une victime alléguée qui aura l'opportunité de se faire entendre par le juge sur les 14 plaintes qui étaient là, les plaintes finales retenues et analysées par le DPCP. Ce sont donc deux chefs d'accusation contre Gilbert Roson, viol et attentat à la pudeur. Ce sont des accusations qui n'existent plus. Aujourd'hui, en 2018, dans l'appellation viol et attentat à la pudeur, le code criminel a été modifié en 1983. Donc, avant ça, on utilisait les termes viol pour une agression sexuelle complète, sans consentement, obtenue avec menace ou encore avec violence. Et pour ce qui est de l'attentat à la pudeur, là, c'était quand on, avec des voies de fait, on portait atteinte à l'intégrité sexuelle. Ça pouvait, par exemple, être des attouchements sexuels, forcer quelqu'un à poser des gestes de nature sexuelle. Mais ce que ça nous révèle, c'est que la victime qui est retenue dans cette affaire était mineure, parce que ça date de 1979, et attentat à la pudeur, ça voulait dire sur une victime de moins de 18 ans, donc une mineure. Cet indice-là.
On ne sait pas de qui il s'agit, Monique.
Non, et même si on le savait à ce stade, on sait qu'elle ne figure pas parmi les personnes qui ont pris la parole publiquement au cours de la dernière année. Ça, c'est certain. Et au-delà de ça, il y a maintenant un interdit de publication qui nous empêche de révéler qui est cette victime. Okay. Et ce sera le cas tout au long de la procédure judiciaire, sauf si elle, à un certain moment, décidait devant le juge de faire la demande de lever de non-publication sur son identité. Pour ce qui est des sentences, oui. Juste un petit mot sur les sentences, parce que les accusations sont celles de 1979, ça s'applique parce que c'était en 1979, et les sentences vont s'appliquer aussi. Et dans le cas du viol, c'était des sentences qui pouvaient aller jusqu'à perpétuité, tandis que pour l'attentat à la pudeur, c'est une peine maximale de 5 ans.
Et le mouvement ou le regroupement de celles qu'on a appelées les courageuses, celles qui demandent d'entreprendre un recours collectif contre, ou une action collective, je pense qu'on doit dire maintenant, contre M. Roson. Aucune d'entre elles n'est inclue dans ça, là, parce que c'était dans les années 80, ces femmes-là, non?
Ah, ça couvre une période de 30 ans. Okay. En fait, pour ce qui est du regroupement des courageuses, là, c'est, justement, ça démarre dans la fin des années 70. De mémoire, je pense que c'est 78 ou 79, justement, et ça allait jusqu'en 2016. Donc, d'accord, ça couvrait vraiment une période là, assez importante des femmes de tous les âges et qui alléguaient avoir été abusées dans la vingtaine, certaines même alors qu'elles étaient mineures, parce qu'il y avait d'autres mineurs dans le lot des victimes. Même juste dans les 14, là, il y avait d'autres qui étaient mineurs à l'époque.
OK, donc toutes celles dont on a parlé publiquement, dans le fond, il n'y aura pas de suite judiciaire criminelle.
Pas criminelle, mais c'est ça, c'est important de le souligner parce qu'au niveau civil, la procédure, elle est complètement à part. Elle va suivre son cours en 2019. Là, bon, il y a une demande d'appel, mais c'est sûr que ça vient donner, même si ce sont deux procédures judiciaires complètement distinctes, un certain poids à la procédure civile quand même. Les résultats du criminel pourront éventuellement servir à procès. Puis la principale différence, c'est qu'au criminel, Roson aura droit au silence. Elle ne sera pas obligée de témoigner pour sa défense, tandis qu'au civil, on pourrait le contraindre à se présenter à la barre et à s'expliquer et à répondre des allégations et des accusations contre lui, là.
Monique, vous qui étiez à l'origine de cette nouvelle-là, là, c'est vous qui avez mis ça sur la place publique et qui l'avez suivi avec beaucoup de professionnalisme. Avez-vous l'impression que plusieurs ont, d'après ce que je vois présentement sur les médias sociaux, que la montagne a accouché d'une souris?
C'est très bien dit. J'aurais pas pu trouver une image aussi éloquente, Luc, et disons ça comme ça, parce que c'est sûr que c'est décevant et compte tenu qu'on a une idée très, très claire de ce qu'elles alléguaient, les 13 autres, là, j'entends, ayant connaissance de d'une partie de la preuve, de certains éléments de corroboration, certains avaient des témoins à qui ils en avaient parlé à l'époque, des journaux intimes qui dataient de plusieurs décennies dans lesquels les agressions avaient été détaillées et les accusations ne sont pas retenues au final, c'est certain que ça peut décevoir. Toutefois, je pense qu'aujourd'hui, et pour avoir parlé et discuté, échangé avec plusieurs d'entre elles dans les dernières heures, là, depuis que la nouvelle est sortie, je pense que ce qui reste et ce qui demeure, c'est il y en a au moins une qui pourra se rendre devant un juge. Et pour nous, c'était ça l'essentiel. C'est-à-dire que quand ils ont pris la parole publiquement pour la plupart, et même les autres qui ont levé la main par la suite, qui ont fait tout le processus dans l'ombre, l'objectif n'était pas de le faire pour elles-mêmes. C'était surtout de le faire pour éviter que ça se reproduise, pour que ça cesse, pour qu'on protège une certaine partie de la population. Et souvent, c'est ce qui motive les victimes d'agressions sexuelles aussi à porter plainte. C'est qu'on veut éviter, on veut protéger d'autres personnes. Et c'est un peu elles ont l'impression d'avoir contribué un peu à un effet papillon. C'est-à-dire que le battement d'ailes soulevé l'an dernier et tout ce qui est arrivé par la suite permet aujourd'hui de déposer des accusations criminelles. On verra bien sûr pour la suite. M. Rozon est présumé innocent. Mais déjà, c'est une apparence de justice pour elles.
Est-ce qu'elles ont le sentiment que le DPCP a été très frileux? C'est arrivé dans le passé, dans d'autres dossiers, que le DPCP veuille pas porter d'accusation, soit forcé de le faire. Puis finalement, dans le cas notamment du policier à Montréal qui avait frappé un jeune là dans une filature, là,
oui.
Et, il a été reconnu coupable. Le DPCP voulait pas poursuivre.
À Longueuil,
ils ont eu l'impression que le DPCP a été frileux dans leur cas?
Tout à fait. Frileux, zélé. Et c'est à se demander, en effet, comment se fait-il que quelques autres plaintes n'ont pas été retenues, parce que pour vous donner une idée, de mon côté, il y a également des sources policières qui disent, écoutez, le ton a monté entre le CVM et le DPCP des dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'on était convaincus de pouvoir aller pas mal plus loin avec un plus grand nombre de plaignantes. Et quand eux, ils ont appris qu'on allait de l'avant dans seulement un cas, parce qu'au final, c'est des DPCP qui tranchent, c'est sûr que ça a irrité certains policiers. Et les femmes qui défilaient dans le bureau du DPCP l'ont senti, ça. Elles ont vu les policiers qui n'étaient pas du tout heureux dans certains cas du dénouement. Et eux travaillent fort, sont convaincus d'avoir une preuve assez solide. Et j'ai l'impression qu'on a pris, et je sais que l'expression fait peut-être friser les oreilles, surtout aux juristes et aux gens qui sont dans le milieu de la justice, mais c'est un peu comme si on avait choisi la victime qui était la plus parfaite, celle avec qui on était sûr de pouvoir aller jusqu'au bout et de gagner, alors qu'on aurait peut-être dû permettre à d'autres de se rendre devant le juge et de laisser trancher le juge sur la crédibilité de la preuve et la crédibilité de la victime. Et j'attire votre attention sur les communiqués du DPCP sont toujours très, très laconiques, là, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ce communiqué-là. C'est rare qu'on va jusqu'à dire et à expliquer qu'il arrive qu'un procureur, bien qu'il croie la victime, en arrive à la conclusion qu'il ne sera pas en mesure de démontrer en cours. On a glissé dans ce communiqué-là que c'est pas parce qu'on n'avait pas porté d'accusation qu'on n'avait pas nécessairement cru ces femmes-là. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même un message qui est important.
Ouais, puis je pense aussi que, enfin, je vous le soumets, là, qu'il y a une façon de faire de la couronne, pas seulement au Québec, mais partout au Canada, et je pense particulièrement au cas Paul Bernardeau. Bernardeau a été accusé du meurtre de deux filles, mais il y avait contre lui la possibilité de porter environ 14 ou 15 accusations pour viol, pour voie de fait et tout ça. Et la couronne avait décidé de tasser ça, se disant, je vais l'avoir là où j'ai la preuve. En ayant la preuve, puisqu'il va avoir la punition ultime si j'arrive à le démontrer, tout le reste est une perte de temps et d'argent. C'est ça un peu la pensée.
Ouais. Est-ce que... Oui, allez-y, Monique.
Non, mais j'allais dire qu'on peut supposer effectivement qu'on voulait aller au bat, comme on dit, pour prendre une expression populaire avec ce qu'on avait de plus solide pour être sûr de ne pas rater son coup. Je pense que ça peut effectivement avoir joué dans la balance, mais par contre, au niveau des sentences et du cumul des victimes, s'il y en avait eu plusieurs, ça aurait assurément, par exemple, fait une différence à la toute fin du processus.
Savez-vous si certaines victimes pensent à aller à une plainte privée au criminel? Ça existe, ça?
Ça existe, mais je pense qu'elles ont vraiment choisi la voie civile.
Okay. Et
elles ont confiance en ce système-là. Pour l'instant, elles sont bien accompagnées par des avocats et c'est pas garanti, bien sûr, de résultats, mais je pense quand même que la plainte civile, pour l'instant, semble être la voie qu'elles ont priorisée.
OK, ben merci beaucoup, Monique Léron, d'avoir suivi cette histoire-là. On risque de se reparler encore quelques fois.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Félicitations pour tout le travail accompli depuis un an dans ce dossier-là.
Merci beaucoup et je retourne les félicitations à ces femmes qui se sont tenues debout, qui en ont inspiré d'autres et c'est tout ça qui a mené, bien sûr, aux résultats qu'on connaît aujourd'hui.
Merci. Au revoir.
Merci.
C'est donc...
C'est vrai ce que je disais, ouais. Là.
T'es mieux de le coincer pour quelque chose dont t'es sûr.
La couronne, là, quand ils sont placés devant une situation comme ça, ils disent, écoute, je vais prendre là, de toutes les enquêtes, je vais prendre celle là, qui m'apparaît la plus solide. Parce que avec la jurisprudence qu'on peut étudier, je vais prendre là, le cas où je pense que je vais le mettre en dedans. Tu comprends? Et en plus, elle le disait en 79, ça pouvait mener à la prison à perpétuité, un viol de ce type-là. Alors, je vais le prendre là, puis le reste, c'est une perte de temps et d'argent, parce que si jamais je le fais condamner à 20 ans, ça donnerait quoi de le faire condamner à 21 ans? Ça donnerait quoi de le faire... Alors, l'idée, c'est je veux pas faire en sorte qu'il y ait des éléments en plus qui pourraient faire dérailler le processus.
Ouais, mais il y a aussi, me semble-t-il, le fait que les victimes avaient échangé entre elles. Ça a fait craindre à la couronne... À un moment donné, qu'on se retrouve comme dans Yann Gomeshi, là.
Exactement.
Où les victimes, s'étant parlé entre elles, elles ont pu organiser leur témoignage ou qu'il y ait un doute raisonnable là-dessus.
Voilà. Puis un avocat de la défense au nom de Roson ferait ressortir ça. Je suis convaincu, quand je ne peux pas être convaincu, mais je soupçonne, je devine qu'ils ont justement pris un cas qui est vraiment pas dans ça. Un cas où ils vont pouvoir le mettre en dedans. C'est la job de la couronne.
Note que, regarde, là, dans le cas de... Dans le mouvement MeToo, là, t'as eu... Enfin, c'était un peu avant, mais quand même. T'as eu Marcel Aubu, il a été accusé de rien, mais il est sorti.
En fait, il n'y a même pas eu d'enquête criminelle dans son cas.
T'as Roson, qui risque quand même la prison si la couronne démontre ce qu'elle veut démontrer. T'as Salvaille, qui est quand même sorti du trafic, mais qu'il y a rien qui a été démontré de criminel contre lui jusqu'ici.
Tout ce qu'on a pu démontrer, c'est que c'était con puis c'était vulgaire, mais à part ça.
Ta parent, c'est la même chose. Il est sorti du trafic, mais il n'y a pas eu d'accusation. En fait, il y a une réprobation sociale qui est au-delà de l'acte criminel. Oui. C'est pas parce que c'est pas criminel que c'est admissible socialement, pareil.
Et voilà.
Cette réprobation-là...
C'est bien exprimé, Myriam, parce que c'est vrai ce que tu viens de dire. Là. Ça peut être vulgaire, épais, dégradant, mais c'est pas nécessairement un crime. C'est ça la question ici.
Ouais. Il y a un autre cas aujourd'hui dans le même genre de registre, mais qui est beaucoup plus... disons, beaucoup plus démontré. C'est celui de Bertrand Charest. Tu te rappelles de Bertrand Charest, l'entraîneur de ski? Ce matin, là, il y a une poursuite.
C'est un écœurant, ça. C'est vrai que c'est un écœurant.
Puis tu peux le dire parce qu'il a été condamné à la prison.
Oui, c'est un écœurant. Il n'y a plus de présomption d'innocence. Puis le gars semble avoir aucun remords. Vraiment, là, Bertrand Charest, ça, c'en est un que ça me choque.
Ce matin, il y a une poursuite d'$1,400,000 qui a été déposée, non pas contre Bertrand Charest, mais contre Canada Alpin, c'est-à-dire l'association canadienne...
Pour laquelle il travaillait, son employeur.
C'est ça, c'est l'association canadienne de ski alpin qui envoie des athlètes aux Olympiques, etc., puis dans les championnats du monde.
Et qui payait le salaire de Bertrand Charest.
Qui payait le salaire de Bertrand Charest. Il y a trois skieuses, Geneviève Simard, je pense que c'est à son père qu'on avait parlé à l'époque où l'histoire était sortie, Gail Kelly et Anna Pritchall. Dans ces trois cas-là, les trois femmes se sont alliées pour poursuivre Canada Alpin au civil, pour $1,400,000. Je les trouve bien modestes, d'ailleurs, dans leur demande. Il y en a une qui demande $2,100 pour ses soins psychologiques. Et la description qui est faite, c'est une poursuite d'une cinquantaine de pages que j'ai le temps de survoler, là. La description qui est faite, tu te dis, mais comment ils ont pu laisser aller ça?
Si longtemps!
Au moment où ils l'ont embauché...
C'est tellement irresponsable!
Au moment où ils l'ont embauché, ils savaient déjà, d'après la poursuite, qu'il avait été chassé de Québec alpin. Parce qu'il abusait des jeunes filles. Ils l'ont pogné plusieurs fois. Avec des mineurs dans sa chambre ou ne réservant, ils l'ont laissé gérer la gestion des, ils l'ont laissé gérer les réservations de chambre, si bien qu'à un moment donné l'athlète se retrouvait coincé pour partager la chambre avec lui.
Mais oui, c'est C'est comment, alors, je comprends pourquoi elles ont choisi ou que leurs avocats leur ont recommandé d'aller à poursuivre Canada Alpin.
Ouais.
Parce que Charest, lui, là, il ne doit plus avoir une scène, puis il est en dedans, puis son cas est réglé, puis tant mieux, parce que c'était un écœurant, celui-là.
Mais dans ce cas-là...
Mais dans ce cas-là, là, le responsable, c'est effectivement l'institution. C'était des grandes skieuses, c'était des athlètes extraordinaires dont on a détruit la vie psychologique et physique au vu et au su de tous, puis personne s'en occupait. Écoute, il fait une bonne job, c'est un bon coach, imagine.
Et dans ce cas-là, ils ont l'aide du premier tribunal, du tribunal criminel, qui a écrit « L'organisme Alpine Canada et ses dirigeants ont lamentablement échoué dans leur rôle de gardien, de protecteur de ces jeunes athlètes dont les parents avaient délégué leur sécurité entre leurs mains. Alpine Canada a plutôt choisi de fermer les yeux, de ne pas croire ces jeunes femmes et de cacher la vérité. » Il raconte là-dedans qu'à un moment donné, il y a trois porte-paroles de l'entreprise, en fait, de Alpine Canada, qui s'en vont rencontrer les jeunes filles en leur disant, là, votre carrière est en jeu, là. Si bien que les jeunes filles n'osent pas parler.
C'est
tellement froid et tellement peu empathique.
C'est cynique.
Ouais. Alors là, il y a une poursuite civile.
Odieux. Trouvons d'autres mots.
Et les avocats ont fait savoir qu'ils
ont... C'est un enfant chien.
Les avocats ont fait savoir qu'ils ont tenté d'en arriver à une entente hors cours avec Canada Alpin. Et qu'ils n'y sont pas arrivés, ce pourquoi la poursuite est maintenant déposée.
Et ça, Canada Alpin, ça reçoit des tonnes de subventions du secteur public.
Oui, absolument. Quand ils ont chassé...
Alors, ils sont mieux de faire attention parce que ça peut monter plus haut vers le ministère. Ça.
Quand ils ont chassé Bertrand Charest, là, sais-tu ce qu'ils ont fait?
Non.
Ils l'ont mis sur le même avion que ses victimes.
Ah, ça, je la savais pas.
C'est écrit dans la poursuite.
Dégueulasse.
Midi 47.